dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Toujours une histoire, ma grand-mère elle était espagnole, anarchiste, ouais. L'autre j'étais anarchiste quand j'étais étudiant,
ouais.
L'autre, le troisième, mon fils est dans des squats à Bruxelles.
Je cherche un petit peu des documents sur Brassens et quand il faisait ses premiers concerts, pour, notamment pour le journal, pour Solidaridad Obrera, voilà.
Ouais, ouais, voilà. D'accord. Ah.
Des gens comme les Lazad.
Oui,
bah, ils emploient pas le mot anarchisme, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'autogestion.
Je suis confiant parce que de toute façon, comme disait Varlin, hein, tant qu'aux marches du palais, il y en a qui crèveront sur les marches, le monde il tournera pas rond. Et donc quand le monde il tourne pas rond, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent qu'il tourne un peu plus rond que ça.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes.
Quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, André Prudhomo, alors secrétaire aux relations internationales de la Fédération anarchiste, écrivait dans Le Libertaire du 15 février 1948.
Les périodes de guerre et de réaction amènent la destruction massive, souvent absurde, de toute la littérature subversive accumulée par les siècles, y compris les manuscrits d'ouvrages non publiés, des lettres précieuses, etc. Tout ce qui n'est pas détruit par l'adversaire l'est, à titre de mesure de prudence, par les militants, les sympathisants, les amis trop zélés, etc.
Puis vient la période de reconstruction. On s'aperçoit alors de la difficulté insurmontable de se procurer certains textes essentiels. On donnerait tout au monde pour retrouver ce qui est perdu. Et c'est impossible.
Dans ces circonstances, le devoir de chaque camarade qui a pu préserver la documentation des années écoulées, c'est de ne rien jeter, de ne rien vendre au hasard, même des choses apparemment démodées et périmées. Le fonds commun du trésor de la pensée et de l'expérience émancipatrice doit être conservé et mis à la disposition de tous, par la création de collections spécialisées tenues à jour dans les principaux centres de recherche.
Ainsi débute l'histoire du Centre international de recherche sur l'anarchisme.
Le premier d'entre eux est créé vers 1957 à Genève.
Ensuite, c'est à l'initiative de quelques militants anarchistes de Marseille qu'est fondé le CIRA, Centre international de recherche sur l'anarchisme, de Marseille.
C'est cette histoire que va nous conter Philippe Equi.
Les gardiens des mémoires anarchistes avec le CIRA de Marseille sur Dissonance. L'équipe de Dissonance pousse donc aujourd'hui la porte du 50 de la rue Consolat pour une plongée dans la mémoire écrite de l'anarchisme d'hier et d'aujourd'hui.
Eh ben, le CIRA, ça a été créé à l'origine en Suisse en 1957 par des compagnons qui sont aperçus que les anarchistes publiaient beaucoup, puis souvent quand ils décédaient, tout partait à la benne. Donc il y en a qui se sont dit il faudrait quand même garder, archiver ça, parce que c'est pas les organismes officiels à l'époque qui s'intéressaient pas du tout à la question. Maintenant ça a un peu changé parce qu'il y a des universitaires, il y a quand même des institutions qui s'intéressent à l'anarchisme, enfin à tous les documents dont l'anarchisme, mais à l'époque c'était pas du tout le cas, donc il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Donc ces compagnons en Suisse, il y avait notamment Pietro Ferrua, qui est toujours en vie, qui vit aux États-Unis, qui est un Italien, qui était un objecteur insoumis, qui s'est exilé en Suisse pour pas faire le service militaire. Donc ils ont décidé de fonder un CIRA à Lausanne, alors à Lausanne, puis c'est parti à Genève, mais maintenant c'est revenu à Lausanne, donc ça c'était 1957. Et dès le début, il y a les compagnons de Marseille, notamment un certain René Bianco, décédé, si je ne me trompe pas, en 2005, et assez jeune aussi, à 65 ans, et qui était un prof d'histoire, passionné par les archives, au début militant de la Fédération d'archives, puis surtout passionné d'archives, donc lui il était en contact avec Lausanne, et dans un premier temps ils ont dit on fait une annexe à Marseille. Et l'annexe, l'idée c'était de ramasser de la documentation pour amener à Lausanne et ne garder que les doubles. Et petit à petit, Marseille est devenue autonome et a constitué ses propres collections à force d'accumuler des documents. Il y a des militants espagnols qui vivaient à Marseille, donc on a récupéré pas mal de choses espagnoles. Ouais. Alors oui, il y a CIRA, Centre international de recherche sur l'anarchie. Alors en Suisse, ils ont vraiment toutes les langues du monde. Hein. Il y a des fonds japonais, chinois, tchèques, polonais, j'en passe et des meilleurs. Et nous, à l'origine, on était plutôt spécialisés dans la Méditerranée, donc c'est France, Italie, Espagne. Et puis on a augmenté le fonds, on le verra tout à l'heure dans la bibliothèque. On a beaucoup d'anglais maintenant et quelques autres langues, mais ça c'est minoritaire, on va dire. Et donc il y avait une communauté basque. Un peu comme partout en France, après 1939, il y a beaucoup d'Espagnols qui sont venus en France, dont une communauté importante à Marseille, des gens qui militaient à la CNT. La CNT avait son local en plein Marseille, qui a été actif peut-être jusqu'en l'an 2000, et puis petit à petit, les compagnons et compagnes sont décédés parce qu'elles étaient très âgées. Et on a eu notamment comme animatrice une copine qui s'appelait Pepita Carpena, et qui a été très active, bon, qui faisait selon ses moyens, mais passionné par les archives, qui faisait ses petits classeurs, tout ça, quoi. Donc le fond, son fond, ben, on a énormément de choses, et là, il est à classer actuellement.
Quelqu'un qui était venu toute petite aussi, qui avait passé la frontière avec ses
parents. Oh, elle n'était pas si petite que ça, c'était une militante, elle était de 1920, je crois, donc elle avait quand même 18-19 ans. Oui. Et à l'époque, à 14 ans, on était militant. On était adulte parce qu'il fallait travailler. Ouais. Et donc, elle n'était pas venue avec ses parents. Ses parents, sa famille restait là-bas. Et bon, après, elle a raconté souvent son histoire. Elle est passée sur France Culture. Ouais. Elle aimait beaucoup parler. Elle parlait. Et elle avait milité un peu à Mujeres Libres. Ce n'était pas une théoricienne, c'était une. C'est une ouvrière, Pepita, elle était consciente des problèmes des femmes qui étaient importants aussi dans le milieu libertaire parce que les compagnons ne respectaient pas forcément leurs compagnes. Donc il a fallu un mouvement comme ça qui n'était pas reconnu dans le mouvement libertaire en exil parce que ça comprenait la CNT, la FAI et les FIJL, mais pas les Mujeres Libres, elles ont été tenues un peu à l'écart.
Il y a d'autres annexes là, en France, comme la vôtre ?
Alors, ce genre de centre, il y en a dans le monde entier.
D'accord.
Mais alors, ils ne s'appellent pas tous CIRA. Des CIRA, il y en a qui s'appellent CIRA, officiellement, il y en a quatre. Donc, celui de Lausanne, celui de Marseille, hein, à Limoges, qui s'appelle le CIRA Limousin. Mm-hmm. C'est une volonté de création de feu Gilbert Roth. Et il y a un CIRA au Japon qui existe depuis des années. Et il y a une époque, il y en a eu un. Bah, Pietro Ferrua vivait au Brésil. Et il y en a eu un au Brésil. Mais il a été détruit par les dictatures militaires. Et après, donc, hors CIRA, il y a des tonnes de centres qui archivent tout ce qui est... Parce que bon, c'est quoi le CIRA et c'est quoi les centres comme nous ? C'est de conserver toute la mémoire du mouvement anarchiste qui est énorme. Parce que contrairement à d'autres mouvements politiques qui sont très centralisés, où il faut écrire ce qu'a décidé la direction, dans nos milieux, autant d'anarchistes, autant d'écrits et autant de tendances. Voilà. Donc ça fait une richesse. Alors il y a des choses, pas tout et pas passionnant, mais il y a des chefs-d'œuvre. Enfin, nous, là régulièrement, je trie des journaux, on tombe sur des pépites, et puis il y a des choses moyennes. Bon, qu'on le mérite d'exister parce que c'est de l'information, mais tout n'est pas fabuleux. Et les livres, c'est énorme, quoi. Enfin, on publie tous les ans une bibliographie. Donc, on essaye. Alors, c'est que la francophone. Hein. Donc, on essaye de recenser tous les bouquins qui ont un rapport avec l'anarchisme. Alors, rapport avec l'anarchisme, ça veut dire pour, contre. C'est les différentes tendances, les syndicalistes, les violents, les pas violents, les individualistes. Et on arrive à 300 bouquins par an, quoi, qui paraissent.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest
Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. Voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting, this land was made for you and me.
Les gardiens des mémoires anarchistes, avec le CIRA de Marseille, sur Dissonance.
Alors, bon, on en a la chance. Bon, l'histoire du CIRA au niveau local a été très compliquée, hein, puisque depuis 65 à aujourd'hui, il y a eu 5 ou 6 locaux, avec des expulsions, des périodes sans local, où les archives étaient en carton. Et là, depuis 2010-2011, on a la chance d'être propriétaire d'un local. Ça, je peux raconter aussi comment on a pu être propriétaire.
Ouais.
La propriété, c'est le vol, mais c'est bien. C'est mieux que d'être locataire, dans certains cas. Et le local précédent était dans un immeuble au second étage, donc très difficile d'accès. Les gens, il fallait qu'ils sonnent. Alors que là, on est à deux pas du centre, hein, vous avez vu. C'est à 100 mètres de la Canebière. Donc on a un public de militants qui nous connaissent, qui viennent discuter le coup, de chercheurs, oui, d'étudiants qui peuvent faire une recherche précise. Et puis on a entre guillemets des touristes du monde entier, parce que Marseille est une ville assez attractive au niveau de sa vivacité, de ce qui s'y passe. Et on a des gens qui peuvent venir des États-Unis, d'Amérique du Sud, et qui ont dû voir l'adresse. Tu tapes anarchisme Marseille et tu vas trouver l'adresse. Et on fait un effort pour être ouvert toute l'année, même les jours fériés, du lundi au vendredi, après tous les après-midi.
Et c'est que des bénévoles, ça ne fonctionne
Alors, oui.
qu'avec des bénévoles.
Ça, c'est important de le dire, parce que c'est aussi un débat dans ce genre d'assos. Ne fonctionne qu'avec... Alors nous, on préfère le mot militant à bénévole,
ouais.
parce qu'il faut quand même être motivé pour passer des heures à faire de l'archivage, du catalogage, ne serait-ce que la comptabilité ou le ménage du local. Et donc, on n'a aucune subvention. Bon, c'est arrivé dans l'histoire qu'on ait une ou deux petites subventions pour payer des bouquins. Mais là, donc, on ne vit que des cotisations de nos membres. Membres qui sont au nombre de 230 au jour d'aujourd'hui. Et donc, l'argent vient de là. Après, il y a quelques activités annexes, mais c'est pas ça qui rapporte des sommes folles. Et ça permet, donc, puisqu'on est propriétaire du local, de payer toutes les charges. Et à Marseille, il faut s'inquiéter parce que les immeubles s'éboulent, alors il y a des travaux à faire, de toiture. Bon, là, la mairie a imposé le ravalement de l'extérieur parce qu'il faut que ça soit beau et que le quartier devienne bobo. Parce que là, on n'est pas loin du centre, mais on était un peu en dehors de des quartiers gentrifiés. Mais je pense qu'en faisant ravaler toutes les baraques, le but c'est d'augmenter les loyers et
d'expulser la population
et d'enlever les
voilà. d'ici et vers l'extérieur.
Classique.
D'accord.
Ici, c'est une rue qui est un peu sinistrée. On voit qu'il y a pas mal de rideaux qui sont tirés. Je pense qu'il y avait beaucoup d'ateliers, de petites boutiques. Et ça tout a fermé quasiment, donc qui a permis à des gens comme nous de s'installer. Donc il y a des associations et c'est une rue assez vivante. Mmh. Bon, il y a par exemple la revue CQFD qui se trouve à deux pas. Il y a l'association Mille Babord qui a des tendances libertaires. Plus bas, mmh. il y a des Italiens, ça s'appelle la Casa Consola. Il y a une association de Kabyles, une association de Galiciens.
Et avec une ouverture comme ça, ouverte sur la rue, sur la population, ah. il n'y a jamais eu d'attentat, jamais eu de...
Ben non, touchant du bois. Hein, c'est... Bon, alors là, l'enseigne a été enlevée parce qu'il y a eu les travaux de ravalement, mais on a une très belle enseigne qui est un peu discrète. Ce n'est pas un gros acerclé avec un drapeau rouge et noir. C'est une baleine, c'est inspiré d'une pièce de théâtre d'Armand Gatti. Donc c'est une baleine sur une mer de livres, bon, qui est... Et il y a écrit « Centre national de recherche sur l'anarchisme » avec des caractères un peu tordus. Donc, c'est pas...
Ouais, voilà.
Bon,
pas l'œil, quand même.
Après, ça, c'est on a un drapeau noir quand même qui est magnifique.
Ah, mais
qui
voilà.
C'est le drapeau noir d'un groupe local qui était à... Bon, ça prouve qu'il y avait les quartiers de Marseille. Il y avait plusieurs groupes anarchistes sur Marseille. Mmh. Donc ça, c'est un quartier de Marseille qui s'appelle Saint-Henri. Et le drapeau, bon, il a visiblement été brodé
1900.
En 1900. Et il est, bon, on a réussi à le sauver, il n'est pas bouffé par les mythes, et on a récupéré ça, il a été prêté pour des expositions. C'est...
D'accord.
Alors, d'être au rez-de-chaussée aussi, on a des curieux qui frappent. Bon, alors après, ça, c'est les qualités de ceux qui font l'accueil, de parler aux gens, de voir s'ils ne se sont pas trompés de lieu. Après, il y en a, ils ont toujours une histoire. Ma grand-mère, elle était espagnole, anarchiste. Ouais. L'autre, j'ai été anarchiste quand j'étais étudiant.
Ouais.
L'autre, le troisième, mon fils est dans des squats à Bruxelles. Et bon, les gens sont curieux, ça se passe bien. Et puis, bon, vraiment, si on tombe sur des ennemis politiques, on leur dit qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. Et puis après, il y a des gens, comme ils voient des bouquins, ils croient que c'est une librairie. Alors bon, il faut bien dire, là, cette première partie, c'est juste des dépôts de... C'est une activité vraiment annexe. C'est des dépôts de... Enfin, c'est pas des dépôts, c'est la diffusion d'éditeurs anarchistes avec lesquels on est en rapport.
Je vois qu'il y a beaucoup de livres pour enfants.
Ouais, pas beaucoup, justement.
Pas beaucoup, ouais, il y en a quelques-uns. Ouais. Et du coup, comment tu pourrais donner une définition de l'anarchisme à des enfants? Une définition assez simple, du coup.
On va partir des idées les plus simples de l'anarchisme. C'est l'autogestion, se prendre en charge, respect des autres. Mais ça aussi, on peut le trouver dans d'autres mouvements. Hein. Mm-hmm. Mais surtout, la prise en charge de soi-même, pas dépendre des autres et pas attendre qu'il y ait un dieu ou un chef qui te dise quoi faire. Il disait Reclus, classique, l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. Le mot anarchie est employé trop souvent dans le sens de désordre, chaos, et donc on est obligé de reprendre sans arrêt. C'est pour ça qu'il y a des gens souvent qui se disent libertaires plutôt qu'anarchistes, parce qu'ils croient que ça fait peur, mais il ne faut pas avoir peur, il faut expliquer ce que c'est. Quoi. Et donc le rôle du CIRA, c'est d'expliquer. Des fois, on a des gens, mais c'est quoi? Et on a quelques bouquins de vulgarisation qu'on diffuse pour leur montrer des choses assez faciles. Alors pour les enfants, justement, il y a un livre de... C'est plutôt pour les adolescents. C'est Philippe Godard, qui est un écrivain jeunesse et qui a fait un petit bouquin qui pose les bonnes questions et qui peut être lu par des adultes et des grands ados.
Tu pourrais nous dire, Philippe, d'où vient le mot anarchie?
Ah, privatif et archos.
C'est l'autorité. Hein. C'est l'autorité en grec. C'est hors autorité.
Hors autorité.
Ouais, hors autorité. On entend souvent qu'anarchie, en fait, vient du... Enfin, que arché voudrait dire l'ordre. Mais ce n'est pas l'ordre, c'est l'autorité. Après, l'ordre et l'autorité se recouvrent souvent. Mais...
Donc l'édition actuellement, ça a été... Il y a eu des périodes vraiment de vaches maigres, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 68, où il paraissait très peu de choses, on le voit quand on catalogue. Après 68, il y a eu un premier renouveau, et le grand renouveau de l'édition, c'est après 95, enfin après 90, la chute du mur, et donc le communisme dit je sais pas quoi, a montré sa faillite. Pas le vrai communisme, mais le communisme réel, ou je ne sais pas comment ils l'appelaient, les staliniens. Et là, il y a beaucoup de gens qui avaient quand même des idées de changer le monde et qui sont tournés vers... Enfin, tout le monde n'est pas devenu anarchiste, mais beaucoup de gens lisent des bouquins, quoi.
Et l'évolution de ce courant, comment tu le sens évoluer ?
Je ne sais pas, parce que je pense que c'est quand même des idées qui font peur, parce que par rapport à tous les autres idées politiques, c'est un mouvement, on te dit, il faut te prendre en charge. Et les gens, ils aiment bien qu'on les prenne en charge. Alors, je ne sais pas si on va réussir à croître. Alors après, bon, il y a eu des expériences dans l'histoire. En Espagne, et quand même, à la fin, il y avait des millions de gens qui suivaient ces idées-là. Mais il y avait un travail d'éducation. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la consommation à outrance comme maintenant. Les gens, ils sont pris dans leurs histoires de crédit, ils regardent des conneries à la télé. Alors que là-bas, les gens, après le boulot, ils allaient suivre des cours du soir. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et bon, après, il y avait 1,5 million d'adhérents à CNT. Ils n'étaient pas tous anarchistes, mais bon, ils y trouvaient quand même quelque chose, quoi, pour aller là. Quoi. Si, alors la présence, elle est quand même pas mal actuellement. Des gens comme la ZAD. Oui, bah, ils n'emploient pas le mot anarchisme, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'autogestion.
Ils construisent, ils inventent une autre
donc
façon.
Donc, après, on compare leur façon, leur pratique, et puis nous, ce qu'on a écrit, enfin, ce qu'ont écrit nos penseurs, c'est très proche. Quoi. Et donc, bah, après, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas d'étiquette, comme tu disais. Ouais. Tous les mots, moi, j'ai un copain là, d'enfance qui vient de décéder, il n'employait pas le mot anarchisme, il disait libertaire. Bon.
Ouais, voilà.
Bon. Ouais. Libertaire, il faut se méfier aussi parce qu'il y a les libertariens aux États-Unis et les gens l'emploient un peu à tort et à travers aussi. Hein.
Con un grafo, ella escribe en las paredes resistir, bufanda rojinegra por la espalda, minifal. Ana Clara borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina. Ana Clara es de agua. Cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola. Ana Clara nunca encuentra, porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista. Anarquista, Ana Clara. Si la guien de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda pregunta al espejo un consejo. Ana Clara, hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan, fisiatría. Ana Clara, si el camino Ana oscura siempre claro quieres ver, si el camino Ana oscura siempre claro quieres ver. Nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara. Tus pasiones, Ana Clara.
Les gardiens des mémoires anarchistes avec le CIRA de Marseille sur Dissonance.
Est-ce que tu peux nous faire visiter alors ce paradis anarchiste?
Je ne sais pas si c'est un paradis, on essaye de... que ça soit accueillant et propre. Et alors, malgré tout, il y a quand même pas mal de bazar parce qu'on reçoit des archives sans arrêt, donc classer tout. On a beau être une dizaine de membres actifs, les tâches sont énormes. L'intérêt, c'est qu'on est sur la rue, donc au rez-de-chaussée. Première partie donc, de la diffusion d'éditeurs amis. Ouais. Bon, bureau, le bureau d'accueil. Ouais. Là, on fait de la diffusion de brochures. C'est un copain qui travaille pour en parler, pour lui poser des questions. Il fait des traductions, surtout de l'anglais. Et il publie toutes ses brochures.
D'accord.
Donc, on a des livres qui sont au prix libraire et puis on a des choses à prix libre comme ça. Le prix libre, c'est une notion, tu donnes ce que tu veux. Tu donnes 50 centimes ou 10 000 euros suivant tes moyens. Nous, c'est vraiment centré sur les archives. Hein. C'est la principale activité. Quoi. Après, comme activité annexe, la librairie, ça nous permet d'aller sur les salons et de présenter des bouquins parce que nous, on n'est pas tellement éditeurs, on a publié très peu de choses. Donc, on présente les bouquins et ça permet de donner une idée de ce qui se publie suivant les salons où on va, parce qu'on va dans des salons qui ne sont pas du tout anarchistes. Et donc, c'est présenter les bouquins et d'en discuter, puis de parler du sien en même temps. Quoi. Et après, donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, le cœur du sujet, c'est la bibliothèque. Donc, attends, super, je vais prendre mon petit papier pour dire. Bon, alors les chiffres, ils n'ont pas dû être mis à jour. On va dire qu'il y a 6500 livres en tout cas. Et dont, alors moi, dans SIRA, il y a le I veut dire international, donc, mais c'est énormément, c'est essentiel. La plus grande partie sont des livres en français, mais de tous les pays francophones. Hein, il y a des Suisses, des Belges, des Canadiens. Et il y en aurait plus de 5500. Et ce que je dis souvent, sans vanter, c'est la plus grande bibliothèque francophone au monde. Anarchiste. Ah oui. Parce que même à Lausanne, où ils ont une variété de langues beaucoup plus grande, la part des Français, c'est aussi la plus importante parce qu'on est en Suisse francophone, mais ils ont beaucoup d'autres langues. Donc ces fonds, comment ils sont constitués? Beaucoup de dons des militants, des vieux, des jeunes qui donnent leur bibliothèque ou leurs descendants. Et après, comment on la complète? Eh ben, j'ai parlé tout à l'heure qu'on recensait 300 bouquins qui paraissaient par an. Donc, on écrit à tous les éditeurs qui publient quelque chose, qu'ils soient sympathisants, anarchistes ou pas. On leur écrit, en leur montrant de l'intérêt de ce qu'on fait. Et en leur disant, surtout, on fait un petit journal, on présente des bouquins. Donc, ça peut les intéresser. Et ils nous envoient, alors, si ça s'appelle, les éditeurs ont des bouquins en service de presse. Mm-hmm. Donc qu'ils envoient aux médias. Nous, on n'est pas vraiment un média. S'ils envoient, ils voient que c'est un intérêt que leur bouquin soit conservé dans un lieu pareil. Et pas seulement à la BNF.
Oui, voilà. Là, c'est le côté publication, mais le côté archive. Imaginons que Mimi soit quelqu'un qui vient et elle fait des recherches sur Louise Michel. Comment va se passer?
Les bouquins, il va y avoir énormément de choses. Hein. Il y a un fichier qui est... On a des petites fiches papier traditionnelles. Et puis, il y a un site internet là, qui a été remis à jour très récemment. Et on a accès au catalogue. Donc, on peut taper des auteurs, des titres, des mots-clés. Et comme ça, on peut tomber sur tout ce qu'il y a en livre sur Louise Michel. Après, alors...
Un document.
La partie énorme aussi, ce sont les périodiques, les journaux. Parce qu'il y a un nombre de journaux qui est assez insensé aussi. Ça, c'est des milliers. Je ne sais pas combien on en est, mais on vous montrera parce qu'ils ne sont pas dans ce local-là, ils sont dans une annexe qui se trouve à 100 mètres d'ici. Et donc les périodiques, c'est énorme. Et là par contre, on n'a pas dépouillé tous les articles de chaque journal, qui sera un boulot complètement insensé. Alors après, les gens viennent avec des références, ils savent que dans tel numéro de telle revue, on a parlé de machin et on peut leur trouver le numéro en question.
Quel est le périodique anarchiste le plus diffusé?
C'est compliqué. En France, celui qui avait peut-être la plus de visibilité, c'est le Monde Libertaire. Bon, après, il y a une richesse de publications. Il y en a des moins connus. Là, on reçoit, c'est des gens qui habitent dans les montagnes qui font une revue qui s'appelle Nunatak. Ça part comme des petits pains, c'est à prix libre.
Dans les montagnes?
Ouais, c'est les luttes, la vie dans les montagnes.
Ah ouais.
Et elle s'appelle Nunatak, c'est un mot inuit. Et c'était une revue qui était italienne à l'origine et qui a maintenant une deuxième revue en France. Et donc, ça se passe dans les Alpes. Alors, il ne se passe peut-être pas grand-chose dans le Massif central. C'est plutôt
dans les Pyrénées
et Vosges. Ouais. Mais je vous la montrerai
tout à l'heure. Oui, je veux bien. Ouais. Ouais.
Parce que là, on l'a en dépôt et celle-là, elle est vraiment de qualité, belle impression. Alors, les livres, les journaux, les brochures, c'est énorme. Parce que la brochure est un moyen de propagande énorme, pas cher. Ouais. Donc la brochure, par définition, c'est des petits fascicules agrafés qui font moins de 50 pages. Et là, on en a des collections énormes aussi. Ouais. Et alors, elles ne sont pas en accès libre aussi, c'est dans des boîtes, mais tout est référencé, tout est au fichier. Hein. Alors là, pareil, thème, auteur et titre. D'accord. Alors après, avec des mots du titre, on peut faire ses recherches. À part ça, on a aussi des affiches, des cartes postales, des objets, des badges, des choses comme ça. Des documents numériques qui existent que sous forme numérique. Mais alors les affiches, elles sont dans des grands classeurs.
Ah oui.
Alors moi je maîtrise pas, moi tu maîtrises toi ?
Elles sont dans les cartons là-haut, ouais. Là c'est celles qui sont dans les dernières pour la cotation.
Ça c'est tout récent, un festival punk à Marseille.
Ah, vous récupérez tout quoi alors ? Non ?
Bah, tous les trucs, tout ce qui a rapport avec l'anarchisme de, quand même. Bon, ça phobe, je sais pas, ça a l'air à Buenos Aires.
D'accord, ce sont des affiches récentes. Les affiches anciennes sont plutôt...
Oh, il doit y en avoir des anciennes, mais il faudrait...
Non, il n'y en a pas. Il y en a là-haut, il y en a là-bas, dans des... Il y a les thèses aussi. Il y a à peu près maintenant 300 thèses qui sont archivées et dont on les a mis à disposition, en tout cas les titres et l'indexation sur Internet. Et il y a des gens qui s'en servent quand ils font des recherches.
Quelle est votre motivation personnelle pour donner du temps à une structure comme le CIRA?
Ben, déjà, c'est un lieu de mémoire collectif. Déjà, c'est le lieu de mémoire du mouvement anarchiste, déjà. Ouais. C'est un des lieux en France. Moi, je suis issu du métier du livre, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis, il y a une bonne équipe, il y a une bonne ambiance, et puis voilà.
Et vous avez été libertaire anarchiste depuis que vous êtes né?
Ouais, c'est mon histoire, ça.
C'est votre histoire, vous voulez la garder, pas de problème.
Je crois que la part d'entre nous, ouais, ils sont quand même tombés. Alors, il y en a, c'est des histoires familiales, puis il y a d'autres, au moment des études, du lycée. Mais souvent, on est tombés assez jeunes. Bon, il y en a après qui ont eu... On a un compagnon, il a découvert l'anarchie sur le tard. Hein, ça peut arriver, hein, mais en général, on est baigné là-dedans depuis longtemps. Hein. Alors, comme c'est bien, parce que comme il y a plein de tendances, on peut passer de l'une à l'autre...
Et toi, Philippe, par exemple, ton parcours personnel qui t'a conduit ici, si tu veux l'évoquer, sinon t'es pas obligé.
Ouais, ben moi, c'était au lycée, hein, les mouvements lycéens. Il y avait une loi complètement débile qui s'appelait la loi Debré qui devait nous pousser à faire le service militaire très jeune. Et on a commencé à se battre là-dedans. Et puis j'ai été à un concert de Léo Ferré, enfin c'était à 17 ans. À l'époque, c'était après les années qu'on suivit 68, c'était un peu effervescent. Dans les maisons de la presse, on trouvait de la presse maoïste, trotskiste, anarchiste. Donc j'ai tout lu, puis je me suis aperçu que les autres, ils étaient pas mieux que les gens. Enfin, c'était des gens de pouvoir, et moi j'étais attiré par l'autogestion, par des choses. Donc je suis tombé vite fait dans l'anarchisme. Quoi. Bon, après moi aussi, c'est comme Marc, moi j'ai été bibliothécaire dans ma vie. Alors bon, donc je suis passionné du livre. Et ce qu'on fait ici n'est pas du tout la même chose que ce que je faisais dans ma vie professionnelle. Enfin, les tâches que je fais, moi, au CIRA, ne sont pas du tout les mêmes. Donc, j'ai toujours plaisir à venir là, quoi. Et puis, c'est pour la cause, entre guillemets. Au boulot, c'était pas pour une cause, c'était pour le public. Hein. Je travaillais quand même pour les gens, mais à la fin, on a été obligé d'obéir à des directives. Enfin, le livre était plus tellement important. Hein. Ce qui comptait, c'est la communication, la hiérarchie, enfin, des mots qui me font des objectifs et des évaluations, enfin, des mots qui me font vomir. Ici, on n'a pas trop ces mots-là. Nelly qui fait du catalogage aussi.
D'accord. Voilà. C'est quoi que tu appelles le catalogage?
Ben, le catalogage, c'est tous les bouquins qu'on reçoit. Il faut leur créer une fiche.
Ah, d'accord. Oui.
Ben, ça, c'est le travail classique de bibliothécaire qui se passe dans toutes les bibliothèques du monde entier, qu'elles soient anarchistes ou pas au public. C'est le bouquin rentre, il faut qu'il y ait un accès. L'accès, ça se fait par la cote, ce qu'on met au dos du bouquin. Donc, les bibliothèques traditionnelles, c'est plutôt par thème. Nous, c'est pas format ordre d'arrivée, il y a juste un numéro, donc ça, c'est pas le truc le principal. Ce qui est important, c'est toutes les infos qu'on va mettre dans une fiche, qui sont l'auteur, le titre, l'éditeur, l'année d'édition, et des mots-clés pour permettre de retrouver le bouquin, même si on sait pas le titre exact.
Les gens peuvent venir emprunter, ramener, ou alors non, c'est juste consultable sur place.
Bon, c'est ouvert à tout public aux heures d'ouverture, donc tout curieux. Alors après, tu disais qu'ils venaient, c'est des militants ou des curieux. Hein. Donc ils viennent, ils prennent le bouquin, ils s'installent, ils passent l'après-midi à lire.
D'accord, après, il y a une salle de lecture.
Voilà, l'emprunt est réservé aux adhérents. les adhérents donc peuvent emprunter des bouquins chez eux, les garder 3 mois et nous les rapporter, comme dans toute bibliothèque publique. Et enfin, la dernière salle qui est là. Donc, dernière salle, 100 mètres carrés tout en longueur et avec une mezzanine d'une 20aine de mètres carrés au-dessus qui contient des archives en cours de classement. Et cette salle, c'est la salle de réunion et de causerie. Les causeries, dans le langage officiel, on dit conférence, mais on a repris un terme, les causeries de Libertad. C'était les individualistes au début du 20e siècle qui appelaient leur rencontre comme ça. Ça faisait un peu moins universitaire, officiel. Donc, en général, c'est quelqu'un qui vient présenter un bouquin.
D'accord.
Qu'il a écrit, et donc il fait sa présentation de manière un peu classique, et après il y a une discussion et avec le public, et puis ça se termine par un moment convivial autour d'un pot, voire un repas après.
Et puis bon, c'est la grande tradition, Philippe l'a dit tout à l'heure, mais je relisais un truc de Libertad, les causeries, c'est vraiment la grande tradition du mouvement libertaire, quoi. Ouais. C'est l'éducation par le savoir, c'est ce qu'a fait Ferrer en Espagne, Bon, c'est tout ça, l'éducation. Après, il y a eu des tentatives de sortir de l'école étatique et tout, aussi bien en Espagne, en Angleterre, en France, un peu partout. Bric-à-brac en est une.
Les gardiens des mémoires anarchistes avec le CIRA de Marseille sur Dissonance.
D'accord. On peut monter là-haut.
Ah ben oui, vas-y, je te suis. Ah,
attention à la tête. Ah non, on va voir mon fauteuil. Ouais, c'est moi qui l'ai amené là aussi. Hein ? Alors ici, mezzanine qui a été faite quand on a acheté le local par des compagnons. Alors c'est très bas de plafond. Alors c'est en cours de tri, il y avait vraiment un bazar de choses non triées. Les copains ont abattu un boulot énorme de tri. Donc on a enlevé beaucoup de choses. Pour l'instant, et ça va se diriger par là, on trouve les brochures dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont dans ces boîtes-là par langue. Donc là effectivement on en met beaucoup, chaque brochure est dans une enveloppe. À l'abri, et tous ces dossiers, c'était René Bianco, dont on a parlé au début, le fondateur du CIRA, qui faisait des dossiers sur les militants anarchistes. Donc il faisait des pochettes, et puis il mettait des photocopies, des tracts, et donc on peut trouver des choses intéressantes là-dedans. Louise Michel, elle doit avoir un dossier. Et donc ça, on l'a gardé en l'état, comme l'avait fait René Bianco, et on peut rajouter quelques documents pour compléter, quoi. Et après, on a, qui ne sont pas encore... C'est en cours de rangement, ce sont les archives personnelles qui sont dans des boîtes archives. Bon, là, par exemple, Marc Prévotel, Jacques Serra, on a le nom de celui qui a donné ces archives. Donc, c'est un travail, il faut faire l'inventaire, dire exactement. Bon, on enlève ce qui est livre, chose classique. Et après, c'est des dossiers que faisaient les militants. Après, il y a des groupes, il y a la Fédération anarchiste de Toulon qui nous a donné des choses, donc elle a sa caisse, comme ça.
Voilà, très bien. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec ces journaux à la main?
Ce sont des journaux espagnols qui n'ont pas été encore archivés. Du coup, on les trie, voilà.
Alors, comment vous les triez? C'est-à-dire, vous regardez les sujets, vous vous dites...
Pour le moment, ils sont tous mélangés et déjà, on essaye de les rassembler selon les journaux.
D'accord. Donc, vous avez une collection complète de Solidaridad Obrera?
On ne sait pas si elle est complète, justement, mais
on va
le savoir.
D'accord. Et c'est passionnant. C'est quoi votre intérêt là-dedans? Enfin, je veux dire, personnel.
Vous
êtes un rat d'archives ou alors...
Mon intérêt personnel, eh bien... c'est difficile de répondre à ça.
Par exemple, là, c'est parce que vous vous intéressez à la période de l'anarchie.
Bon, là, par exemple, je fouille un petit peu sur les journaux parce que je cherche... Je cherche un petit peu des documents sur Brassens et quand il faisait ses premiers concerts notamment pour le journal, pour Solidaridad Obrera, voilà.
Ouais, d'accord. Ah, ok. Et vous avez déjà trouvé ou non, pas encore?
Oui, j'ai trouvé quelques petits trucs, quoi.
Ah ouais, c'est super. Et voilà. Du coup, ça fera l'édition d'un bouquin ou non?
Bon, on verra, peut-être bien, oui.
Super.
D'accord, par rapport à Brassens, alors?
Ouais.
Ah, super.
Et il a écrit dans Solidaridad. Il faisait des...
Non, c'est juste ses premiers concerts. C'était des concerts assez engagés là qu'il faisait.
Gala de soutien.
des galas de soutien. Ah, mais en 1955, il en a fait aussi un à Marseille. C'était fin janvier. Fin janvier. Au jardin du Pharo.
Okay.
Voilà. Voilà.
Ah, un soutien aux Espagnols.
Ouais. Pour la SIA, ouais.
Comme on vous laisse bosser, quoi.
Bon,
vous aussi, c'est génial.
Bonne recherche, alors, hein.
Merci
mais
beaucoup.
Je vous conseillerais de porter le casque, là, qui est en bleu à l'entrée.
Au grand café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu. Quelle soif indomptable, de beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au grand café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un con blagueur, bien installé devant la grande table. On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café. Par terre on avait mis de la sciure de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit, bien installés devant la grande table. Vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer, soudain l'addition, vous avez déclaré: moi j'ai peint rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisqua tous vos effets, vous étiez fait au grand café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant. Vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manieurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café.
C'est extraordinaire. Je me demande, Brassens, quand je vous entends chanter le grand café, si je rêve, si vous êtes là réellement, vous êtes là. Hein?
Vous rêvez un petit peu, je ne suis jamais tout à fait là.
Ah, je m'en doutais.
Les gardiens des mémoires anarchistes avec le CIRA de Marseille sur Dissonance.
Donc si quelqu'un de loin veut avoir des renseignements sur le CIRA, il existe un site internet.
Sur le site, il y a la feuille qui est envoyée, il y a les causeries, il y a les livres qu'on reçoit en SP. Donc au fur et à mesure, ils sont mis dessus avec un lien dans notre base de données pour la recherche, plus un lien chez l'éditeur. Après, il y a des présentations de livres, des expos, des concerts, ce qu'on passe, ce qu'on a envie de passer, ce que les gens nous envoient, sur ce que voilà. Mais en fait, je pense qu'il faut voir le CIRA, c'est vraiment la mémoire du mouvement libertaire. Donc on essaye de brasser un peu tout ça. Puis comme a dit Philippe, on ne fait pas partie d'une tendance du mouvement. Il y a des gens qui sont un peu dans toutes les tendances, donc on essaye de faire que la mémoire soit une mémoire collective, quoi, parce que le mouvement libertaire, le mouvement anarchiste, il est très, très... Il a un arc de cercle qui est très, très grand.
Cette mémoire anarchiste et libertaire se confond avec la mémoire ouvrière.
Une partie, oui. C'est quand même venu du socialisme au départ. Donc, au départ, il y a ça, quoi. Il y a le socialisme libertaire. Bon, après, ouvrière, ça dépend comment. C'est pas la même mémoire que les bolcheviques ou que les marxistes, mais ça fait partie. Et puis il y a l'anarcho-syndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire, il y a tout ça, quoi.
Et alors, est-ce qu'il y a encore des gens du milieu ouvrier qui viennent dans les locaux du CIRA? Ou ça reste réservé aux intellectuels?
Mais c'est quoi le milieu ouvrier?
Mais justement, mais je ne sais pas.
Moi j'ai travaillé dans l'imprimerie toute ma vie, que je suis un ouvrier, Nelly était infirmière. Voilà, donc on vient de Tony était instite, lui il travaillait dans la bibliothèque, il était bibliothécaire, je veux dire, on n'est pas des...
On n'est pas ce qui est
considéré comme l'élite, les cadres, les premiers de cordée. Nous, on fait notre truc, quoi.
Voilà. Marc a parlé de la feuille, alors ça s'appelle la feuille d'info du CIRA, ça existe depuis 1999, ça apparaît quasiment tous les mois. Et donc c'est une feuille à quatre recto-verso, et dans laquelle on présente des activités, des nouveautés de livres. Alors on ne peut pas présenter tout ce qu'on reçoit, mais on fait une sélection un peu subjective de ce qu'on a envie de faire connaître, des journaux, des films. Donc ça, cette feuille, elle est sous forme papier ou sous forme électronique sur le site.
Donc le CIRAS, ça intéresse les gens de Marseille qui peuvent venir aux conférences, mais bien, bien plus, c'est ce que je voulais dire, bien plus que les gens de Marseille, quoi, avec cette feuille, avec votre site.
Ben avec le site, avec les causeries aussi. Des fois, il y a des gens qui viennent de loin pour les causeries. Écoutez, les causeries, non, c'est pas... Le lieu géographique est à Marseille, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile pour les Marseillaises et les Marseillais ou ceux des alentours, mais il y a l'été, on a un énorme passage. Afrique du Sud, Australie, Canada, Afrique, Europe, ça brasse, ça parle toutes les langues ici. Mmh. Des Russes, des...
L'avenir pour le CIRAS, on est en 2020.
L'avenir est un chien écrasé. Ben, l'avenir, c'est ce que les gens ils en feront. Hein. C'est, voilà. Y a pas, nous, on
il faut
pas...
des jeunes générations. Parce
nous,
que,
on n'a pas d'héritier. Nous, on a,
voilà, on est à la soixantaine. Oui. Il y en a des plus jeunes que nous. Il y en a qui ont la quarantaine, voire trentaine. Bon, ben, c'est eux qui vont le faire. Hein. Et puis, tant que le mouvement anarchiste est productif comme ça, ben, on va continuer à archiver. Je ne sais pas où on mettra les choses, mais...
De toute façon, c'est des idées qui sont pas mortes et c'est des pratiques qui ne sont pas mortes. Et vu l'autoritarisme qui est en train de revenir, c'est des pratiques auxquelles les gens réfléchissent et qui remettent en œuvre aussi. Donc voilà, c'est pas normal. Je suis confiant. Je suis confiant parce que de toute façon, comme disait Varlin, hein, tant qu'aux marches du palais, il y en a qui crèveront sur les marches. Le monde, il tournera pas rond. Et donc, quand le monde, il tourne pas rond, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent qu'il tourne un peu plus rond que ça.
Magnifique conclusion. Merci à Philippe et à toute l'équipe du CIRAS. Voilà. Merci.
Pour vous informer davantage sur le CIRAS de Marseille, vous pouvez consulter leur site CIRAS-Marseille.info. Vous trouverez ce lien ainsi que d'autres informations sur le CIRAS en allant sur la page internet de dissonance.ovh. Les
anarchistes. Salut.
Et fraternité.
Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et le rêve vomitant, et puis là tout rongé par des foutues idées.
Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent.
La plupart fils de rien ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur de. Ils sont morts sans du foie, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore.
Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent.
Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul,
faudrait pas oublier ça descend dans la rue, les anarchistes.
Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier.
Il n'y en a pas sur 100 et pourtant ils existent
et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous. Joyeux, c'est pour ça
qu'ils sont toujours debout.
Les anarchistes.
a pas un sursang et pourtant ils existent. Il y en a pas un sursang et pourtant ils existent. Il y en a pas un sursang et pourtant ils existent.
Aux vies heureuses des bourgeois,
et pourtant ils existent.
J'avril bourgeonne, ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents.
Grâce
ce pigeon est aimé,
et pourtant ils existent.
Un jour par sa pigeonne, ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps.
Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cet œil genois en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et je fais mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle n'eut de souhait impossible. Elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu.
Sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti, disons.
Lentement en grand vol,
en forme de triangle, arrive plat des passes. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol.
Regardez passer, ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, par-dessus vent, les bois, les mers, les vents, et loin des esclavages. L'air qui boit votre forêt, les cadres et vos poumons.
Regardez les avant d'attendre sa chimère, plus dans l'aile rompue et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femmes et mères, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pourraient devenir volailles comme vous. Mais ils sont avant tout les fils de la chimère, les assoiffés d'azur, les poètes, les fous.
Et le peu qui viendra nous avouer leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regarde les vieux coqs, genoux et défiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et le peu qui viendra nous avouer leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Collectif Onemo! Ouh 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 ouh! Ouh!